nos voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. En cette journée internationale des filles, nous parlons des filles au travail. Placées dans des familles, elles sont les plus touchées par cette forme invisible du travail qu'est le travail domestique, victime d'asservissement, voire d'exploitation sexuelle, ce qui les conduit à abandonner l'école plus tôt que les garçons. Or, pour la première fois depuis 20 ans, le travail des enfants est en augmentation dans le monde. 63 millions de filles entre 5 et 17 ans sont au travail et ce nombre pourrait croître encore sous l'effet de la pandémie et des bouleversements économiques que la crise sanitaire a engendrés. Alors, comment protéger les filles? On attend vos appels. Vous nous appelez sur le compte WhatsApp, c'est le 33 7 64 45 51. 41. Nous sommes en compagnie de Violaine Gagné. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice des programmes de l'ONG Plan International en France. Nous serons aussi en ligne tout à l'heure avec André Alionou, qui est coordinateur des programmes de l'ONG béninoise Assovie, une ONG qui travaille pour la promotion des droits de la femme et des enfants, et dont l'activité principale est l'alphabétisation des filles vidomégons, ces enfants placés et qui se retrouvent travailleuses domestiques ou vendeuses sur les marchés au Bénin. En cette journée internationale des filles, nous reviendrons aussi sur les grossesses en milieu scolaire, hein, car la grossesse précoce conduit au travail précoce. Une élève enceinte abandonne l'école et se retrouve souvent obligée de travailler pour élever son enfant. C'est ce que nous expliquera une surveillante de collège à Cotonou au Bénin. Et dans quelques instants, on ouvre cette émission sur la situation des filles en Afghanistan. Après des années d'espoir et d'ouverture d'école, la nuit est-elle retombée sur les filles? Je vous rappelle notre numéro 33 7 64 45 51 41. On est en direct sur RFI, 7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine, 7 milliards de voisins.
En cette journée internationale des filles, on va parler de l'Afghanistan. Depuis le retour au pouvoir des talibans le 15 août dernier, beaucoup de questions, de craintes concernant les femmes et en particulier la scolarisation des filles. Les talibans, lorsqu'ils dirigeaient le pays entre 1996 et 2001, appliquaient la charia, la loi islamique, dans une version très rigoriste. Et les jeunes filles n'étaient pas autorisées à étudier. On est en ligne avec Sonia Ghezali, correspondante de RFI dans la région. Bonjour Sonia.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Qu'en est-il aujourd'hui, presque deux mois après le changement de régime et le retour au pouvoir des talibans pour la scolarisation des filles?
Eh bien, la situation est vraiment très, très diverse en fonction des provinces, en fonction des villes. Mais le discours des talibans, dès leur prise du pouvoir, a été très clair. Ils nous ont dit que l'enseignement des filles à l'école primaire était autorisé. Et en revanche, pour l'enseignement dans le secondaire, ils ont dit qu'il fallait d'abord garantir, je cite, un environnement éducatif sûr. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour les talibans? Eh bien, cela veut dire un enseignement en accord avec leur interprétation stricte de la charia, c'est-à-dire la loi islamique, hein, comme vous le disiez. Pour eux, il s'agit en fait de la non-mixité des classes. Pas question pour les talibans que les filles et les garçons suivent des cours ensemble dans les classes à partir du secondaire. Et cela va même en fait plus loin, puisque selon eux, les filles doivent recevoir un enseignement par les enseignantes uniquement, pas par les professeurs hommes. Et donc on a vu, c'est vrai, au cours de ces dernières semaines, des jeunes filles reprendre le chemin de l'école à Kunduz, par exemple, cette ville dans le nord-est de l'Afghanistan, ou à Mazar-e-Sharif, qui se trouve dans le nord. Mais cela ne veut pas dire que cela concerne tous les collèges et tous les lycées des villes en question. Le défi et le problème majeur aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'il y ait des enseignantes femmes et des écoles assez grandes pour pouvoir offrir cet enseignement à toutes les jeunes filles en Afghanistan. Et clairement, il n'y a pas assez d'enseignantes en Afghanistan, pas assez d'enseignantes déjà dans les zones urbaines et encore moins dans les zones rurales. Et à Kaboul, par exemple, tous les collèges et les lycées n'ont pas rouvert leurs portes aux filles. Les universités non plus. L'université de Kaboul, par exemple, est toujours fermée aux étudiantes. Certaines écoles privées, certaines universités privées sont ouvertes car elles ont les ressources et les moyens. Mais c'est vrai que les établissements publics, où les enseignants n'ont d'ailleurs pas été payés depuis plus de deux mois puisque les comptes de l'État sont gelés, eh bien, ces écoles n'ont pas rouvert leurs portes aux jeunes femmes. On a rencontré une étudiante il y a 10 jours à Kaboul, par exemple. Elle nous expliquait qu'elle s'était rendue à plusieurs reprises à l'université de Kaboul en espérant reprendre les cours, mais les talibans qui gardent les entrées lui ont ordonné à chaque fois de rentrer chez elle.
Est-ce qu'aujourd'hui, Sonia Ghezali, les décisions politiques en termes d'éducation en Afghanistan sont le principal frein à la scolarisation des filles ?
Non, malheureusement, puisque l'éducation en général en Afghanistan et l'éducation des filles en particulier a toujours été un défi en Afghanistan. Alors, il faut rappeler que l'Afghanistan, c'est un pays de montagne avec une population rurale qui est très importante. Certains enfants dans le centre de l'Afghanistan doivent marcher chaque jour plusieurs heures pour aller à l'école, et cela depuis très longtemps. Et j'imagine que certains de nos auditeurs ont pu voir dans certains documentaires, parce que c'est assez impressionnant d'imaginer des enfants de 6 ans faire des heures et des heures de marche pour aller à l'école. Et puis à cause de la guerre qui faisait rage pendant 40 ans en Afghanistan, l'accès à l'école a été très compliqué. Et dans certains endroits, il était même impossible. Certaines familles continuaient d'envoyer leurs enfants à l'école, mais c'était surtout les garçons. Les filles, elles, restaient toujours à la maison. C'est un pays aussi où les traditions sont très importantes et très présentes. Les traditions dont les familles se défont avec beaucoup de difficultés. Les filles, elles sont mariées, par exemple, très jeunes. 17% des filles sont mariées avant l'âge de 15 ans. Il y a quelques mois, on a été, par exemple, dans les villages dans le sud de l'Afghanistan, à Kandahar. Alors que les talibans n'avaient pas encore pris le contrôle de ces zones. Et les villageois qu'on a rencontrés nous ont expliqué qu'ils n'envoyaient pas leurs filles après l'âge de 9 ans à l'école. En fait, ils nous ont expliqué que c'était une question de tradition, que leurs aînés faisaient comme ça et que eux tenaient à maintenir cette tradition. Pareil dans l'est du pays, dans un village où on est allé, à Rost, dans des zones pachtounes, qui est l'ethnie qui forme la grande partie des rangs des talibans. Et donc on a été très surpris aussi de découvrir la même chose dans le centre de l'Afghanistan, dans le Hazarajat, où vivent les Hazaras, qui est cette autre ethnie qui est de confession majoritairement chiite. Pareil, là-bas, l'éducation des filles de plus de 9 ans était le défi principal des ONG locales qui tentaient de faire changer les mentalités sur le sujet. Donc c'est vraiment un problème majeur en Afghanistan depuis très longtemps, et on s'en rend compte avec les chiffres d'ailleurs, qui parlent d'eux-mêmes, puisque la directrice de l'UNICEF a déclaré tout récemment que l'éducation avait connu d'importants progrès dans le pays au cours de ces 20 dernières années. Le nombre d'écoles a triplé, avait-elle dit, en Afghanistan. Le nombre d'enfants scolarisés est passé de 1 million à 9,5 millions, ce qui est quand même impressionnant. Mais il y a tout de même 4,2 millions d'enfants qui ne sont pas scolarisés en Afghanistan. 60% d'entre eux sont des filles, et ces chiffres-là étaient valables avant la prise du pouvoir par les talibans.
Merci beaucoup Sonia Ghezali, correspondante de RFI dans la région, pour ce point très complet sur l'accès à la scolarisation des filles, un pays où les traditions font que l'éducation des filles de plus de 9 ans reste un défi pour plein de raisons géographiques, culturelles et bien sûr maintenant politiques. Merci beaucoup d'avoir été en direct. Violaine Gagné, directrice des programmes de l'ONG Plan International en France. Alors, votre ONG n'est pas présente en Afghanistan, mais évidemment, votre ONG est dédiée à toute la question des filles, que ce soit les filles empêchées dans l'accès à la scolarisation, les filles traitées inégalement par rapport aux garçons. Comment vous voyez aujourd'hui le problème de l'Afghanistan par rapport aux autres pays que vous couvrez ?
Alors nous sommes évidemment extrêmement inquiets par la situation. Premièrement, le fait de ne plus avoir accès à l'école pour les filles, ça veut dire plus accès à l'instruction, à des compétences et à choisir sa vie. Deuxième chose que l'on constate dans tous les pays en crise, comme l'Afghanistan actuellement, c'est ne pas aller à l'école, c'est aussi être enfermé chez soi. Donc le côté sociabilisé, comment avoir des amis, comment rencontrer d'autres gens, enferme encore plus les filles puisqu'elles n'ont pas accès à cette école. Enfin, le fait de ne pas avoir accès au secondaire, comme le disait votre journaliste, est un vrai problème, puisque effectivement on voit dans le monde entier une augmentation actuellement du nombre de filles qui vont à l'école primaire mais pas le secondaire. Et ramener une fille, une adolescente, à l'école une fois qu'elle a quitté, c'est beaucoup plus compliqué.
160 millions d'enfants, dont 63 millions de filles dans le monde, entre 5 et 17 ans, qui sont au travail. Pourquoi ce chiffre est en augmentation après des années de progrès et après des années de travail sur le terrain des ONG comme la vôtre pour essayer que les filles sortent de l'enfer du travail forcé ?
Alors depuis effectivement 2016, on se rend compte qu'il y a une augmentation, de nouveau une augmentation du travail des enfants, donc de 8,4 millions d'enfants en plus. Pourquoi ? c'est vraiment dû en grande partie aux différentes crises humanitaires, conflits, catastrophes naturelles. La pandémie de la Covid va effectivement augmenter ces chiffres. On s'inquiète et on a peur que 9 millions d'enfants de plus doivent travailler. Pourquoi ? C'est toujours le cercle vicieux de la pauvreté. Parce que les familles, lorsqu'il y a comme ça des crises très fortes dans un pays, qu'on doit se déplacer, quitter son pays, la famille s'appauvrit. Et très souvent, les enfants vont venir subvenir aux besoins de la famille en travaillant. C'est une première cause. La deuxième cause qui est extrêmement importante, c'est le stéréotype de genre. C'est-à-dire que très souvent, on considère qu'une fille, entre un garçon, s'il faut choisir, on envoie le garçon à l'école et on va laisser la fille travailler à la maison et très souvent aux tâches domestiques.
Ouais, et c'est la main-d'œuvre la plus disponible. Comment vous faites pour chiffrer avec précision le nombre de filles qui sont au travail, alors que les filles dans les milieux pauvres sont peu déclarées, encore moins déclarées à la naissance, peut-être que les garçons.
Tout à fait. Alors c'est pour ça qu'on ne parle pas de travail, mais d'exploitation pour les filles à plan international. Tout simplement parce que la plupart de leur travail est invisibilisé. On dit par exemple que les filles consacrent 160 millions d'heures de plus par an au travail domestique non rémunéré que les garçons. Donc il est extrêmement compliqué de chiffrer puisqu'elles sont en plus très souvent en situation de vulnérabilité. Premièrement, elles peuvent être par exemple enrôlées dans des bandes armées, mais le soir, elles vont devoir être exploitées pour faire les tâches domestiques et ensuite une exploitation sexuelle. Donc, tous ces différents types d'exploitation qui sont extrêmement violentes pour les filles ne sont pas comptabilisées dans les chiffres. Donc, c'est 63 millions de filles qui travaillent. C'est la population italienne est en fait très en deçà de la réalité.
Ouais. Et dans quel pays le recul est le plus frappant, ou plutôt l'avancée des filles exploitées au travail sont ces pays où c'est le plus frappant?
Alors c'est surtout l'Afrique subsaharienne, donc c'est un sous-continent qui est extrêmement frappé. C'est là que l'on voit le plus d'enfants qui sont effectivement maintenant exploités. Toutefois, je regardais les chiffres au Cambodge, par exemple, depuis la pandémie de la Covid, l'exploitation, la traite des filles a plus que doublé en un an.
Le Cambodge, mais aussi des pays qui sont pas soumis directement à des conflits comme la Tanzanie.
Tout à fait. La Tanzanie, un enfant sur quatre travaille. Les filles sont effectivement les premières, encore une fois, victimes de ce trafic. Plan international, France travaille dans le nord du pays, à Geita, auprès d'extractions minières d'or surtout et de pêche. Et là, encore une fois, les filles sont les premières victimes, les plus invisibles. Pourquoi ? Puisqu'elles passent leur journée les mains dans le mercure à devoir extraire l'or et donc à être confrontées à des substances toxiques extrêmement néfastes pour leur santé.
En Afrique de l'Ouest, alors vous parliez du Sahel déjà. Bien sûr, le Sahel est confronté à une crise sans précédent. Pourquoi ça a eu une incidence directe sur le recul de la scolarisation des filles et la mise au travail des filles ?
Alors, le Sahel, effectivement, il y a 4 millions de filles, donc au Mali, au Niger, au Soudan du Sud, qui ont dû quitter l'école. Pourquoi ? Crise humanitaire importante, conflit, les familles ont dû parfois se déplacer ou être élevées dans d'autres pays. Elles sont aussi soumises à des insécurités alimentaires assez fortes. Et dans ces conditions, il faut trouver des sources de financement. Souvent, les parents ne peuvent plus travailler. Et là encore, les enfants et donc les filles vont être les premières victimes.
Et puis, les déplacements de population aussi, ce qui désorganise la famille. Et c'est dans ces cas-là, la fille qu'on envoie travailler en priorité. L'impact de la pandémie, vous le disiez, ça pourrait peut-être doubler encore à court terme le nombre d'enfants supplémentaires qui sont au travail, exploités, dont les filles.
Tout à fait. Il y a un chiffre de l'OIT qui est très clair. C'est lorsque
l'Organisation internationale du travail.
Oui, pardon. Lorsque la pauvreté augmente d'1%, le 0,7% des enfants en plus iront travailler. Donc oui, parce que là, encore une fois, dans ce cercle de la pauvreté qui vont faire que les familles, les communautés ont besoin de moyens financiers. Les enfants vont donc devoir combler ce vide et donc très souvent quitter l'école, bien évidemment.
L'exploitation sexuelle en ligne, ça aussi, c'est quelque chose qui a gagné du terrain. Alors peut-être plutôt à cause de la progression d'Internet, mais dans un pays comme les Philippines, c'est flagrant pour les filles.
Oui, les chiffres montrent qu'il y a presque le chiffre a doublé du nombre d'exploitations sexuelles en ligne dans ce pays-là.
Comment vous travaillez sur le terrain? Quelles sont vos approches? C'est d'abord un travail avec les familles, du plaidoyer auprès des pouvoirs publics. Comment vous faites pour soit protéger les filles en amont, soit tenter de les rescolariser?
Alors, il y a trois étapes. Premièrement, il y a tout ce qui est prévention et sensibilisation. Si je prends le cas des enfants soldats en Centrafrique, par exemple, c'est aller auprès de ces enfants-là, et ceux qui sont déjà enrôlés, ou bien ceux qui pourraient être enrôlés, et les sensibiliser à leurs droits, et aux droits des filles plus particulièrement. Ça, c'est une première étape qui est fondamentale. La deuxième étape va être travailler évidemment avec les communautés, les garçons, les parents, les enseignants, afin qu'ils comprennent les droits des filles. Deuxième étape pour les enfants enrôlés va être le fait de pouvoir les sortir, les reconstruire quelque part dans souvent des centres d'accueil, leur santé psychique et évidemment physique, et ensuite pouvoir petit à petit les ramener vers la famille et vers l'école. Ça sera des façons de faire assez similaires sur les enfants qui sont exploités dans des mines. Je reprends l'exemple de la Tanzanie, où là aussi c'est sensibiliser, deuxièmement, le fait de faire sortir l'enfant finalement du travail. Il faut aussi trouver d'autres moyens de subsistance pour les parents, donc travailler avec la famille, encore une fois, afin de mettre en place, par exemple, des associations villageoises d'épargne et de crédit, ce qu'on appelle très souvent les tontines, afin de compenser. Mais c'est aussi travailler effectivement avec les industriels pour leur faire comprendre qu'il y a une sensibilisation très forte à faire, et bien évidemment les pouvoirs publics, afin qu'ils mettent en place des sanctions contre ces entreprises qui exploitent les enfants.
Ouais, alors évidemment, dans le cas des mines, où on peut maintenant trouver très fréquemment des filles, hein, comme vous le disiez, c'est peut-être plus simple que lorsqu'il s'agit d'enfants placés pour des travaux domestiques, finalement, dans la sphère privée.
Absolument. Et c'est pour ça que nous parlons à plan international de l'invisibilité de ce travail. Comment réussir à savoir où sont les filles? Et d'où l'importance de travailler auprès des communautés afin, encore une fois, de sensibiliser et auprès des filles pour qu'elles comprennent leurs droits, et avec les parents, les enseignants, pour ramener ces filles à l'école.
Comprendre ses droits quand on est une fille avec une obligation de ramener de l'argent à la maison, c'est pas simple. Vous nous appelez, bien sûr. On parle en cette journée internationale des filles, de la situation des filles lorsqu'elles sont contraintes de travailler. D'ailleurs, au mot travail, vous préférez le mot exploitation, c'est ce que vous nous disiez, Violaine Gagné, parce que travailler quand on ne gagne pas d'argent, qu'on est simplement nourri et exploité ou victime de violence, évidemment, le mot est peut-être usurpé. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. On passe la parole à une auditrice, Mariam à Abidjan. Bonjour.
Bonjour.
Mariam, vous êtes présidente d'une association qui s'appelle Jeunesse Féminine Active à Abidjan. Vous avez dit au Standard, les filles n'osent pas dire quand elles sont placées dans une famille qu'elles sont maltraitées.
Oui. Elles n'osent pas dire, parce qu'on leur dit bien le bas âge, d'accepter que cela fait partie de leur éducation.
Que cela fait partie de leur éducation, c'est bien ça, hein, Mariam.
Oh oui. Que quand tu es avec la tante, tu as tant de lourdes tâches à faire, cela te fortifie, ça te permet d'être plus femme.
Et d'aider sa famille.
Oui, d'aider sa famille, éventuellement.
Vous-même, Mariam, vous avez été victime d'un placement par votre famille chez un autre membre de la famille.
Oui. Je crois que je ne dirais pas placement, je dirais les parents le font par affection, parce que elle affectionnait sa grande sœur, ma mère affectionnait sa grande sœur, qui voulait bien que je sois avec elle, et ma mère s'est sentie rassurée, a voulu que je parte chez elle, pas dans une maison de placement, non, parce qu'elle s'est dit que je serais chérie là-bas comme je suis chérie à la maison.
Oui, c'était donc chez votre tante. Vous aviez quel âge, Mariam?
J'avais 3 ans et demi.
Et donc, vous avez été placée chez votre tante, a priori, non pas pour travailler à 3 ans et demi.
Non, pas pour travailler.
Et que s'est-il passé?
Pas du tout. J'ai été victime de maltraitance. J'étais mal nourrie, j'étais victime de bastonnades. J'étais apeurée, après effrayée. C'est une période que je n'avais pas envie d'évoquer, parce qu'il y a longtemps, voilà. Et je revis les mêmes émotions. Imaginez, c'est terrible pour un enfant de 3 ans qui n'a pas connu son enfance comme elle devait la connaître, qui devait être chérie, soignée, nourrie, bien habillée, se retrouve dans une situation de maltraitance, comme si elle était orpheline. Donc ses parents sont bien là, bien vivants.
Ça veut dire que pendant plusieurs années, vous n'alliez pas à l'école, Mariam?
Non, je veux dire, je n'ai pas fait la maternelle, mais j'ai fait le CP1, voilà.
Mmh. Et vous étiez...
J'ai fait le CP1 par chance même.
C'est-à-dire par chance.
J'ai été sauvée par une voisine proche, voilà, de la famille.
Qui a vu votre situation?
Oui. Mmh. Qui a vu ma situation et qui est venue interpeller mon père pour lui d'aller me chercher. Mmh. Le jour que mon père m'a vu, il était en sanglots, il dit, mais lui, il est vivant et moi, je suis maltraitée, je suis très malheureuse. Il n'était pas content.
Oui.
Il s'en voulait, il était tellement fâché. Et après, il a décidé que nous allons plus chez quelqu'un, ni oncle, ni tante, ni frère, voilà. Mmh.
Cette situation que vous, que vous décrivez, c'est la première fois que vous en parlez, Mariam?
Vous dites?
C'est la première fois que vous parlez de ce qui vous est arrivé, vous, personnellement, Mariam?
Oui, c'est la toute première fois. Et avec beaucoup de difficultés, si vous sentez dans ma voix, il y a beaucoup d'émotions.
Oui.
Parce que j'avais enfoui cette partie de ma vie. Mais en même temps, j'étais en colère envers mes parents. Parce que je ne pouvais pas comprendre que même s'ils avaient confiance en ma tante, j'étais encore bébé, au fait.
Mm.
J'étais à peine petite, j'arrivais à bien m'exprimer qu'ils m'ont donné confiance à quelqu'un qui ne maîtrisait même pas, qui m'a confié à une autre personne,
oui.
Qui me bastonnait, qui m'effrayait.
Et, qui
et
vous...
au nom de la fraternité, au nom de... Voilà. C'est la suite de ça que j'ai voulu créer l'ONG pour éviter que certaines petites filles vivent ce que j'ai vécu. Mmh.
Aujourd'hui, quel est le message que vous souhaitez faire passer?
Je souhaite que chaque parent élève sa fille. Chaque mère, chaque père donne de l'éducation à sa fille. Parce que mieux que lui, personne ne peut éduquer sa fille. Mieux que lui, personne ne peut être un modèle pour son enfant.
Merci Mariam d'avoir été en ligne en direct chez 7 milliards de voisins. Merci beaucoup pour ce témoignage et bien sûr vous pouvez continuer de nous appeler. C'est la journée internationale des filles aujourd'hui et on parle plus particulièrement de l'exploitation des filles pour des tâches domestiques, de l'exploitation sexuelle également. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. On a reçu pas mal de messages par exemple Divine qui a 22 ans qui est à Bukavu en RDC qui dit moi je connais des boîtes de nuit dans lesquelles des filles de 14 à 17 ans sont obligées par les patrons de ces boîtes de vendre leur corps aux hommes pour pouvoir manger, pour pouvoir dormir. Également Sophie à Lomé au Togo qui dit « Moi j'ai hébergé 4 filles entre 14 et 21 ans qui étaient venues de leur village pour trouver un emploi. Elles ont toutes été battues et violées, elles sont traumatisées et souvent poursuivent dans la prostitution si elles ne sont pas suivies ». Et puis bien sûr, d'autres messages que je vous lirai tout à l'heure. Violaine Gagné, concernant la problématique du placement domestique, et d'ailleurs notre auditrice Mariam a dit, c'est pas exact tout à fait le mot placement, mais on voit bien que c'est quand même un problème très complexe.
Oui, c'est extrêmement complexe et le témoignage de Mariam est vraiment intéressant puisqu'il montre aussi quelque part comment les filles du monde entier ont intériorisé le fait que finalement les tâches domestiques font partie de leur éducation et de leur instruction, ce que l'on entend très souvent. Et d'ailleurs, je voulais revenir sur un exemple que l'on entend très souvent à plan international quand on est sur le terrain, quand on voit une fille qui est dans la rue à l'heure de l'école et qui répond en anglais très souvent dans les pays d'intervention où nous sommes « because I am a girl », parce que je suis une fille, ça veut tout dire, c'est parce que je suis une fille, je ne vais pas à l'école. Et c'est finalement tellement, c'est ce que disait Mariam, et ce que l'on entend aussi au Cameroun dans différentes interventions, terres d'intervention dans lesquelles nous sommes, c'est que finalement, il est normal que cette fille soit dans cette situation. Et c'est vraiment le travail, notre travail, de déconstruire ces stéréotypes de genre. On sait que c'est seulement par l'école que l'on peut s'émanciper, que l'on peut devenir autonome et décider par soi-même.
Alors bien sûr, il faut travailler avec les familles, hein. Mariam le disait, élever sa fille soi-même, mais il y a aussi quand même toute une problématique avec les pouvoirs publics. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. On se retrouve juste après le chanteur et percussionniste Fali. Okay. On est en direct chez 7 milliards de voisins.
Mmh.
De voisins, nous sommes en direct sur RFI. C'est la journée internationale des filles aujourd'hui et on parle plus spécifiquement de la déscolarisation de ces filles ou de ces filles qui n'ont jamais droit à l'école. Because I am a girl, comme vous le disiez si bien tout à l'heure, Violaine Gagné, vous êtes directrice des programmes de l'ONG Plan International en France. Des filles qui sont massivement, dans ce cas, mises au travail, travail forcé, pas rémunéré. Nous en discutons aussi en ligne avec André Alionou. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le coordinateur des programmes de l'ONG béninoise Assovi, qui travaille pour la promotion des droits de la femme et des enfants. Et dont l'activité principale, c'est d'alphabétiser des filles vidomégons, donc des enfants placés, vendeuses notamment, hein, vendeuses sur les marchés du Bénin. Ce phénomène des vidomégons, alors pour ceux qui nous prendraient en cours de route et qui ne savent pas, hein, c'est un phénomène qu'on observe depuis des années. Ça signifie vidomégons en langue fond, ça veut dire enfant placé. Mais au départ, il s'agissait d'une coutume qui n'était pas forcément négative.
Non, pas du tout, c'est exact. Et je peux dire jusqu'à présent, oui, c'est une coutume, c'est dans nos us et coutumes, mais c'est pas du tout pour exploiter l'enfant.
On le confie à un parent pour qu'il puisse avoir accès, par exemple, dans une ville plus importante, à l'école.
Oui, qu'il ait un avenir meilleur.
C'est ça.
On le confie à un parent qui a une condition socio-culturelle meilleure, pour que l'enfant aussi ait un avenir meilleur.
Ouais.
Et c'était un engagement vis-à-vis de la communauté, du clan, de la famille élargie.
Ouais. Dans la réalité, on a des très jeunes filles qui font l'objet d'une transaction financière avec leurs parents.
Oui, ça c'est la traite. Et ça, pour ce côté, je crois que depuis une douzaine d'années déjà, le gouvernement a mis tellement de bouchées doubles que la traite a reculé énormément. Mais l'exploitation persiste. Parce qu'on continue de placer les enfants qui travaillent, qui sont exploités dans les marchés, dans les quartiers, dans les domiciles, sans être rémunérés et sans forcément avoir la chance d'aller à l'école ou d'aller dans une formation professionnelle qualifiante.
Oui, quand vous parliez de traite, ça veut dire que la loi, il y a eu des trafiquants qui ont été condamnés, des familles d'accueil qui ont été condamnées, parce qu'aujourd'hui, la loi est là pour dissuader ou punir les adultes qui profitent du travail des enfants.
Oui, oui, et elle est très sévère. Même si vous vous déplacez aujourd'hui avec votre propre enfant au Bénin, que vous voulez traverser la frontière ou peut-être d'une ville à une autre et que vous tombez dans un contrôle, et que vous n'avez pas les papiers de votre enfant, vous risquez vraiment de faire les frais de la justice. Si vous n'arrivez pas à justifier dans les 72 heures, dans les 24 heures. Ça, c'est vraiment l'actualité. C'est très, très sévère. La loi ne s'amuse plus avec. Quoique, je ne peux garantir que c'est totalement aboli, que ça n'existe plus.
Bah écoutez, je vais vous lire justement, Andréa Lionou, le message d'un auditeur qui est à Cotonou, dans la même ville que vous, au Bénin, qui nous dit « La plupart des filles qui travaillent avec les grandes dames du marché d'Antokpa sont des filles placées, les parents n'ont pas de moyens ou ils donnent peut-être la priorité à l'éducation des garçons. » Et cet auditeur nous dit « Moi, quand je constate qu'elles sont maltraitées, je dénonce à la brigade des mineurs parce qu'il y a des filles de 6 à 7 ans. Les grandes dames du marché ont du pouvoir, ont de l'argent et maintenant je ne dénonce plus parce que j'ai reçu des menaces, j'ai été obligée de me résigner. Et si une jeune fille est maltraitée, elles sont aussi poussées à la prostitution, nous dit cet auditeur. Moi, je suis parent, ça me touche de voir ces jeunes filles maltraitées. »
Oui, je suis tout à fait d'accord avec l'auditeur. Et c'est pour ça qu'à Sauvé, nous réagissons autrement. Parce que nous avions compris que la répression ne résout pas le problème. Donc nous sommes purement dans la négociation, dans la stratégie, pour que les parents nous amènent par la sensibilisation ces bonnes dames, ces grandes dames du marché, et les parents eux-mêmes à comprendre que quel que soit le statut de l'enfant, il faut lui donner l'opportunité de s'instruire, d'être bien éduqué et d'avoir un avenir meilleur. Et c'est pour ça que nous sommes partis nous installer, avec l'accord bien sûr, la complicité de ces dames-là dans les marchés, pour éviter qu'on nous dise « l'enfant ne peut pas quitter le marché » pour aller à l'école, savoir faire trop de manque à gagner. Donc l'école est dans le marché. L'enfant n'a pas besoin de trop se déplacer et nous travaillons uniquement dans la matinée pour leur permettre, dans une certaine mesure, avec nos programmes, de pouvoir suivre et d'avoir la chance de vraiment pouvoir retourner à la scolarisation. Et si maintenant, petit à petit, le programme dure 3 ans, si les parents, on a leur accord qu'on continue de travailler, au bout des 3 ans, on arrive à les faire comprendre que quand il va rentrer dans le système formel, ce sera carrément d'autres exigences et nous continuons pas à suivre. Et ça permet, jusqu'ici, ça fait des résultats. Mm-hmm. La médiation, la négociation, parce que par la force, ce qu'on perd, c'est l'intérêt de l'enfant. Au pire des cas, la tutrice va retourner l'enfant dans son village. Peut-être l'enfant n'aura d'autres choix que de se marier. Les parents vont peut-être la marier ou carrément, la pauvreté n'a pas changé.
Ces salles de classe qui sont installées au cœur des marchés pour que les enfants ne perdent pas trop de temps, puisque vous avez compris que les tutrices veulent continuer à les faire travailler l'après-midi. Je crois que vous êtes présent dans 5 communes au Bénin.
Oui, dans 4 communes. Oui. Cotonou, Abomey-Calavi, Ida, Porto Novo et Dassa, oui, dans les 5 communes.
Uh-huh. Et dans une vingtaine de marchés. Mais comment vous faites pour faire réussir ces filles scolairement dans ces conditions-là?
C'est d'abord grâce à la motivation, parce que nous travaillons beaucoup la motivation des enfants. Il y a une équipe psychosociale qui est au chevet de chaque enfant pour quand même permettre à ces enfants-là d'avoir la motivation, l'engagement. Et à partir de là, le programme est fait de sorte que les enfants ne se sentent pas comme, je vais dire, forcés. C'est plus ou moins relax, ludique, mais ils apprennent selon leur âge aussi. Mm-hmm. Et donc, ça nous permet d'avoir cette motivation des enfants, d'avoir en même temps à les éduquer, les sensibiliser sur ce qu'est leur droit.
Concrètement, comment se passent les relations avec les tutrices, les dames des marchés qui veulent faire travailler ces enfants?
Ah là, au départ, c'est un peu d'intimidation. Concrètement, je vous dis tout simplement que le marché, les classes sont là. Nous passons par la hiérarchie des marchés. Nous utilisons les premiers responsables des marchés, les comités de gestion des marchés. Et dans une certaine mesure, la mairie, le service de gestion des marchés des mairies. Et quand nous impliquons ces autorités, quelque part, nous expliquons déjà aux dames que c'est obligatoire pour l'enfant d'aller à l'école.
Oui. La loi, finalement. Quand vous parlez d'intimidation, vous évoquez forcément la loi.
Obligatoirement, et que c'est interdit dans notre pays. Donc, quand on voit un enfant devant l'étalage sans aller à l'école, c'est pas bon pour vous. Vous risquez de perdre votre étalage et de faire les frais de la loi. Et comme nous sommes dans le marché, que le programme ne dure que quelques 4 heures, 5 heures, pour ne pas dire de 8 heures à 12 heures pour les filles. Mmh. Donc, je crois qu'elles acceptent. C'est vrai qu'au départ, on avait beaucoup de soucis, parce qu'elles vont venir en pleine classe, elles vont venir dire, il y a un client qui est venu, vient donner la monnaie, etc. Elles perturbent les classes sans chose. Mais nous avions réussi à les sensibiliser régulièrement. En fait, c'est dans ça. Mm-hmm. C'est la régularisation, la régularité des sensibilisations qui amène les changements.
Et donc à sanctuariser finalement au cœur du marché ces classes, au moins pour la matinée, 8h midi, comme vous le disiez. Donc finalement, si je résume, c'est intimidation dans un premier temps pour les employeuses, et puis après quand même compromis.
Oui, compromis, accord mutuel, justement. Parce que quand vous rentrez dans le programme, nous exigeons aussi, parce qu'on prend... les finances des partenaires, on a droit à des résultats, donc on a un semblant de contrat, d'abord verbal et écrit, qu'on explique aux patronnes qu'elles sachent lire ou pas, et elles adhèrent. Maintenant, l'autre chose que je pense qui fait qu'elles adhèrent le plus, c'est que les filles, quand elles regardent les résultats des filles qui ont pris part le programme, elles veulent donner cette opportunité aussi à leurs filles. Bon, bien sûr, des filles placées. Hein.
Ouais,
donc,
oui.
Parce que quand on voit qu'une fille hier ne savait pas du tout lire et qui était dans le marché avec sa tutrice, en 3 ans seulement, la voici maintenant, elle revient dans le marché. Mais en tant que collégienne, en 4 ans, la voici, elle est au collège. Donc, ça fait que des dames de plus en plus ont envie de donner cette opportunité à leur fille.
Oui, et puis faire travailler une fille éduquée, ça peut rapporter finalement à tout le monde. Merci beaucoup, André Alionou, de nous avoir parlé de ce difficile travail sur le terrain dans ce contexte au Bénin. Violaine Gagné, de Plan International, vous souhaitez ajouter quelque chose?
Oui, c'est vraiment intéressant puisqu'effectivement, ça, c'est un travail qui se fait avec tous les acteurs. Évidemment, les filles en premier, mais les garçons, les tutrices, les autorités locales, ça c'est effectivement, ou parfois religieux selon les contextes, c'est vraiment intéressant. Et effectivement aussi, ce qui est dit, c'est ce qu'on appelle nous les classes passerelles, c'est comment ramener petit à petit les enfants à l'école. Et en plus de ça, il faut des accueils. Donc des centres psychosociaux de remise aussi en forme, qu'on a été, comme le disait Mariam, extrêmement maltraités pendant des années, d'un point de vue psychologique, santé mentale et aussi santé physique. Il faut cet accueil-là. Et c'est vrai que c'est donc une approche intégrée. Et effectivement, c'est sur beaucoup d'années. C'est un changement aussi de mentalité, une façon de traiter l'enfant différemment. Donc ce sont des projets qui prennent 4-5 ans pour avoir un impact extrêmement positif.
Je vous le disais au début de l'émission, on va parler aussi des grossesses précoces qui conduisent au travail précoce. Ça, c'est un autre problème en cette journée internationale des filles. Notre reporter, Raphaël Constant, a rencontré au Bénin une surveillante de collège à Cotonou, Léontina Jovi, qui travaille au CEG Ouélégio. Celle que l'on surnomme Maman témoigne du phénomène des grossesses précoces dans cet établissement. Après l'accouchement, les jeunes filles abandonnent l'école, forcées de travailler pour assumer leur nouveau rôle de fille-mère.
Les grossesses en milieu scolaire ont pris une envergure déplorable. Et à partir d'un certain moment, le gouvernement a décidé de garder les filles enceintes qui souhaiteraient continuer les études. Donc c'est pour cela que depuis qu'on a accepté qu'elles aillent à l'école avec la grossesse, ça augmente chaque année. Et c'est déplorable parce que avec la grossesse, c'est difficile pour elles de continuer. Même si elles portent la grossesse jusqu'à l'accouchement, après l'accouchement, les problèmes se posent et finalement, pour la plupart, elles n'arrivent plus à continuer leurs études.
Et vous parlez de quels problèmes qui se posent?
Généralement, les filles mères, lorsqu'elles reprennent les études, c'est difficile pour elles d'être à l'heure à l'école. C'est difficile pour elles d'être assidues. Elles viennent de temps en temps demander des permissions. Si elles viennent en retard, le motif qu'elles donnent, c'est que le bébé a chauffé peut-être pendant la nuit. Donc, il fallait qu'elle lui donne les soins avant de venir à l'école. Donc, du coup, le cours de 7 heures est raté. Ou bien, bon, elle n'a trouvé personne à qui confier, la maman ou la mémé qui s'en occupe. Ou carrément, elle ne revient pas à l'école parce qu'il n'y a personne pour s'occuper du bébé.
Et donc, vous constatez que souvent, les filles mères finissent par abandonner les bancs?
Pour la plupart, elles finissent par abandonner. Parce que je suis ici depuis bientôt 7 ans. Les filles que j'ai connues, qui sont tombées enceintes pendant qu'elles sont à l'école, en quatrième, en troisième, normalement, elles devaient être en première ou en terminale, ou si possible, avoir le bac. Mais sur 10 filles, à peine deux ont pu continuer. Les autres abandonnent parce qu'il n'y a pas les moyens, il n'y a personne pour s'occuper du bébé. Et les garçons qui sont enceintes n'assument pas, donc la fille est obligée d'aller faire de petits jobs pour pouvoir subvenir aux besoins de son enfant. Du coup, elle abandonne les classes. C'est un problème puisque la fille était envoyée à l'école pour étudier, finir ses études. Si elle ne finit pas les études, elle ne pourra pas avoir un emploi décent. C'est le pays qui subit les conséquences. Parce qu'on est en train de lutter pour l'épanouissement, pour l'évolution, la promotion de la femme. Et si les filles n'évoluent pas, on ne peut pas atteindre cet objectif-là. Voilà.
Et d'après vous, c'est quoi les causes, les principales causes de ces grossesses?
Les causes sont de divers ordres. La première cause que moi je peux trouver, c'est la pauvreté. Il y a le besoin de subvenir à ses besoins. Tu manques de quelque chose, tes parents n'ont pas les moyens, tu trouves un garçon qui te donne 500 francs, c'est fini. C'est parce que le garçon a l'habitude de lui donner de petits sous qu'elle s'est laissée faire. Il y a aussi le fait que certains parents ont démissionné. Il n'y a pas le suivi. Parce que depuis un certain nombre d'années, la scolarité des filles est devenue gratuite dans notre pays, dans l'enseignement secondaire. Puisque les parents n'investissent pas, bon, elle va à l'école, comment ça se passe, on ne demande plus rien. Si elle réussit, tant mieux. Si elle ne réussit pas, tant pis. Quand on convoque les parents, c'est difficilement qu'ils viennent. Ils n'ont pas le temps. On sent qu'ils ne veulent pas se donner, comme c'est une fille.
S'investir, quoi.
Ils ne veulent pas s'investir, voilà. Et puis, il y a cette désinvolture-là par rapport aux filles. Donc, du coup, moi, je me suis dit que s'ils mettaient leur argent dedans, ils allaient suivre. Il y a la responsabilité des parents. Il y a la responsabilité de la société. La fille qui ne fait rien, si elle a déjà l'âge de se marier, notre tradition l'encourage. Voilà.
Et vous, ça vous met en colère, justement?
Ça me révolte. Les gens encouragent à faire des enfants, mais moi, je ne partage pas cet avis parce qu'un enfant est une question de responsabilité. Ça me révolte parce que ces enfants-là sont des charges, d'abord, et ces enfants-là ne peuvent pas recevoir une éducation. Il ne faut pas faire des enfants pour le faire.
C'est la Journée internationale des filles et la route est encore très longue, Virginie Gagné. Comment éviter le recul des acquis qui a été gagné de haute lutte par les ONG qui travaillent sur le terrain pour le bien-être des filles et, semble-t-il, on recule à l'heure actuelle du fait des conflits, du fait de la pauvreté. Et vous le disiez, il y a plus de filles contraintes de travailler aujourd'hui qu'il y a 20 ans.
Alors, une chose très importante, c'est cette journée, Journée internationale des filles, et ce que vous faites au RFI aujourd'hui à écouter justement ce que les obstacles auxquels sont confrontées les filles, c'est primordial, sensibiliser le grand public. Et puis, effectivement, aussi le travail sur le terrain que nous faisons tous les jours, Plan International et d'autres acteurs sur le terrain. Et je crois qu'en tant que citoyen en France, c'est aussi une consommation qui est responsable dans l'industrie du textile, tout ce que l'on peut acheter. On sait bien que l'exploitation des enfants commence aussi par ça, par le bénéfice de grosses entreprises.
Je voudrais pour terminer vous lire le message de Ndak qui est à Dakar qui nous dit « Chaque maîtresse de maison dans mon pays a fait travailler chez elle une fille venant des zones rurales et très souvent de très jeunes filles. » Et puis il y a aussi le message de Khadija qui a 18 ans, qui est à Touba, qui a dit au Standard qu'elle était trop émue pour intervenir en direct. Elle était au bord des larmes. Elle dit « Je suis partie vivre chez la sœur de ma mère à l'âge de 6 ans » comme en écho finalement au témoignage de Mariam à Abidjan. Très maltraitée, elle m'a même brûlé les mains car on m'avait accusée de viol. Ça a été un enfer, j'ai vécu ainsi jusqu'à 15 ans. Ma mère n'a pas voulu de moi parce qu'elle m'avait promise à sa sœur, je devais rester chez elle. Et finalement, j'ai pris les choses en main en fuguant de chez moi à Saint-Louis pour aller retrouver mon père à Dakar. Voilà, vous êtes nombreux à avoir souhaité vous exprimer. Je pourrais aussi vous lire le message de Bourgeois qui est à l'ouest du Tchad, à Lamto. La plupart des travailleurs domestiques sont des filles. Elles sont souvent victimes de maltraitance par leurs employeurs. Dommage que dans mon pays, ceux qui emploient ces filles soient plus puissants que l'État. Merci en tout cas à vous tous d'avoir été nombreux à poster des messages. Demain, 7 milliards de voisins, on parlera d'un tout autre sujet. On parlera du ciment, c'est le pain quotidien de l'urbanisation galopante. Le ciment est le roi de l'autoconstruction malgré son prix relativement élevé. Comment construire plus durable? Comment protéger l'environnement? Est-ce qu'on peut concilier l'urgence climatique et l'urgence de la croissance urbaine? Voilà, on en parlera demain et vous nous appellerez au 33 7 64 45 51 41. Merci à vous, Violaine Gagné. Je ne sais pas pourquoi je vous ai appelé Virginie tout à l'heure. Violaine Gagné, c'est bien votre nom. Et vous êtes donc la directrice des programmes de l'ONG Plan International France. Merci d'être venue chez 7 milliards de voisins.
Merci.
À demain et dans quelques instants, ce sera le journal. Ce sera juste après Gaffe aux autres, une très belle chanson de Ben Mazuet.
Hey, moi de t'entendre rire, ça me suffit. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. J'ai pas trouvé d'autre raison pour la vie. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Je rêve, je rêve, je rêve. Je plaide coupable. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je suis détestable. Je sème, je sème, je sème. Tout ce que je gagne. Je saigne, je saigne, je saigne. Car je sais le mal. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres.
Le temps qu'il reste à nous aimer.
Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres.
J'ai pas toujours été de la partie. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Tu écris notre histoire et moi je fuis. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Je rêve, je rêve, je rêve. Je plaide coupable, je lève mon verre. Si tu m'aimes, tu comprendras que j'emmène ta peine. Même quand je m'évade, je saigne, je saigne, je saigne. Car je sais le mal. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres.
Le temps à nous aimer.
Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres.
Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu crois que je veux? Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu crois que je veux?
Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu crois que je veux? Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu crois que je veux?
Que nos caresses en mêlent soit notre essence. Que nos ivresses soient le fruit de réjouissance. Que la tendresse soit toujours placée devant ce temps. C'est à nous aimer.
Je veux que nos caresses en mêlée soient notre essence. Que nos ivresses soient le fruit de réjouissance. Que la tendresse soit toujours placée devant ce temps qui se reste à nous aimer. Je veux que nos caresses en mêlée soient notre essence. Que nos ivresses soient le fruit de réjouissance. Que la tendresse soit toujours placée devant ce temps qui se reste à nous aimer. Je veux que nos caresses en mêlée soient notre essence. Que nos ivresses soient le fruit de réjouissance. Que la tendresse soit placée
je serai ce gars qui fait gaffe aux autres.
Le temps qu'il reste à nous aimer.
Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Le temps qu'il reste à nous aimer.
Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Le temps qu'il reste à nous aimer. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres.
Ben Mazuet, Jérémy Frérot, Gaffe aux autres, c'est un extrait de son nouvel album Paradis, sorti cet été. Merci à la programmation musicale de Romain Dubrac, merci à Juliette Brault, à Delphine de Dianos, à Diego Tenorio qui était aussi au standard aujourd'hui. Et bien sûr, vous pouvez retrouver toutes nos émissions en podcast sur les plateformes de téléchargement. Et puis bien sûr, on reste aussi en contact sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter ou tout simplement notre adresse mail. Vous pouvez nous écrire à tout moment, 7milliards@rfi.fr. On se retrouve demain, même heure, même endroit, en direct sur RFI. Dans quelques secondes, le journal.